Chapitre 36. Toute la végétation étant morte, la piste devint plus praticable dès que les trois voyageurs eurent quitté les contreforts de la montagne. Inspirant à fond, Nietzsche eut les narines agressées par un mélange d'odeurs de soufre et de pourriture, comme si des vapeurs nauséabondes montaient des nappes phréatiques. Près d'une formation rocheuse, les voyageurs s'arrêtèrent pour sonder la vallée. Les yeux plissés, Nietzsche distingua des lignes droites qui quadrillaient le terrain. Des routes créées par l'homme, mais désormais recouvertes par la poussière. Dans le lointain, la magicienne vit aussi ce qui devait être les ruines de petits villages, de villes plus grandes et même d'une mégalopole. C'était une région très peuplée où les gens allaient et venaient. Soudain, tout s'est desséché.
Il y a encore des zones habitables à la lisière de la désolation, dit Nathan.
Il désigna la ligne de démarcation entre la végétation luxuriante et les terres dévastées.
Les colonnes de poussière gênent la visibilité, continua le sorcier. Mais on distingue quand même des montagnes très loin à l'est. Colader doit être niché dans un de ces pics.
Comment traverser ce désert? Demanda Bannon.
On peut le contourner en restant dans les zones encore vertes, proposa Nietzsche.
On devrait même aller dans un des villages qu'elles abritent, dit Nathan. Si c'était vraiment une vallée fertile, je donnerais cher pour savoir ce qui est arrivé.
Il eut une moue éloquente.
À mon sens, ça n'a rien de naturel.
Je souscris à ce plan, fit Nietzsche. Le seigneur Hall voudra savoir.
Et ce monde a peut-être besoin d'être sauvé, magicienne, ajouta Nathan sans une once d'ironie.
Nietzsche ne répondit pas. Dans la vallée, les trois compagnons durent slalomer entre d'immenses flèches de terre érodées par les intempéries. De ci, de là, des arbres rachitiques s'accrochaient à la terre sèche comme s'ils parvenaient à y trouver encore de l'eau, l'éternelle résilience de la nature. Sous un soleil ardent, Nietzsche retira son lourd manteau, le plia et le rangea dans son paquetage. Sa robe de voyage se révéla adaptée au terrain, plus que les semelles de ses bottes, en tout cas pas assez épaisses sur un sol rocheux très chaud. D'un beau rouge tomate à cause de la chaleur, Bannon transpirait à grosses gouttes. La progression continua dans une forêt de pierres où alternaient les flèches rocheuses et les étroits canyons. Entendant parfois l'écho de minuscules avalanches sur les parois, Nietzsche repéra plusieurs fois des lézards verts et marrons qui fonçaient d'une fissure à une autre. Dans le silence uniquement troublé par le souffle de la brise et ses sons irréguliers, Nietzsche crut apercevoir une silhouette en mouvement, sans rapport aucun avec un lézard. Alors qu'elle se tendait, tout comme Nathan, Bannon fit quelques pas de plus avant de comprendre que quelque chose clochait.
« Que se passe-t-il » demanda-t-il en dégainant sa lame. « On nous épie ?»«
Je ne sais pas, » souffla Nietzsche. « J'ai cru entendre et voir quelque chose. » Elle envoya une sonde mentale en quête d'une éventuelle menace, sans résultat.
« Pour être franc, » dit Nathan, « je n'entends rien du tout. »
Cette déclaration fut ponctuée par un éclat de rire, celui d'un enfant de toute évidence et qui venait d'en haut. Une petite fille se tenait dans une alcôve naturelle de la paroi. Petite et mince, elle semblait avoir dans les 11 ans.
« Voilà un moment que je vous observe, »
dit-elle, les poings plaqués sur les hanches.
« Il vous en a fallu du temps pour vous en douter. J'allais vous faire une petite surprise. »
Vivante image de l'orpheline en haillons, la gamine portait ses cheveux bruns en chignon, un entrelac anarchique plus qu'une vraie coiffure, et ses yeux couleur miel rivés sur les voyageurs s'ilaient sans cesse. La peau caramel, un visage triangulaire doté d'un menton étroit et de pommettes hautes, elle avait des bras très maigres, et ce qu'on voyait de ses jambes sous l'ourlet de sa robe rapiécée ne semblait pas plus charnu. 4 lézards, la tête en bouillie, pendaient par la queue à sa ceinture en tissu.
« Attendez-moi, je descends !»
lança-t-elle.
« Qui es-tu ? »
demanda Nietzsche.
« Et pourquoi nous espionnais-tu ? » ajouta Nathan.
Aussi agile qu'un lézard, la fillette descendit le long de la paroi en utilisant des prises invisibles à l'œil nu et sans craindre un instant de tomber. Pourtant, ses mocassins de cordes réparés avec des morceaux de tissu et de cuir n'inspiraient guère confiance.
Sur les quelques derniers pieds, elle sauta et se reçut souplement devant les trois voyageurs.
« Je vous espionne parce que vous êtes des étrangers et des gens intéressants. Mon nom, c'est Chardon. »«
Chardon ?» répéta Bannon. « Bizarre, ça.
Tu risques de piquer ?»« Non, mais il est difficile de se débarrasser de moi, comme des mauvaises herbes. Mon village s'appelle les Sources de Verdun. C'est là que vous alliez ? Je peux vous guider ?»«
Nous ne sommes pas sûrs de notre destination, » répondit Nietzsche.
« Tu es seul dans ce coin ?»«
Seul avec les lézards, oui. Et il n'en reste plus beaucoup parce que la chasse a été bonne aujourd'hui. »
Chardon ouvrit la gypsière qu'elle portait sur une hanche.
« Je vois rarement des gens. En général, je suis la seule qui part à l'aventure. Au village, tout le monde travaille du matin au soir pour survivre. »
De sa gypsière, la gamine sortit des lanières d'une viande séchée grisâtre.
« Les lézardières, vous en voulez ? Ils ont séché tout l'après-midi, donc ils doivent être bons. »
Elle mordit une lanière en arrachant un bout. Puis elle mâcha et avala, la main toujours tendue pour offrir son festin aux voyageurs. Bannon, Nietzsche et Nathan acceptèrent. Alors que le jeune homme hésitait, le sorcier mordit à belles dents dans la viande.
« Oncle Marcus et tante Luna m'ont appris l'hospitalité, » dit Chardon. « D'après eux, on doit être gentil avec les étrangers parce qu'ils peuvent nous aider. »
« C'est bien possible, en effet, » dit Nietzsche en songeant à sa mission. « D'abord, nous devons savoir ce qui est arrivé ici. Où est ton village ?»«
Pas loin. Je suis parti depuis 2 jours et j'ai assez de vivres pour 1 semaine. Oncle Marcus et tante Luna ne m'attendent pas si tôt. »
Chardon sourit.
« Ils seront surpris que je leur ramène des visiteurs. Vous pouvez nous aider, c'est vrai ? La balafre, vous l'empêcherez de s'élargir ?»
Chardon étudia les étrangers et soupira.
« J'en doute. Vous n'êtes pas assez fort. »«
La balafre ?» répéta Bannon.
« Elle parle de la désolation, » dit Nathan, « cette vallée devant nous. »«
On l'appelle la balafre parce que c'est à ça qu'elle ressemble, » déclara Chardon. « On raconte que cet endroit était magnifique quand j'étais bébé. Des fermes, des vergers, des forêts et même des jardins de fleurs. Vous imaginez ? Gaspiller de l'eau, de l'engrais et de la bonne terre pour des fleurs ?»
Nietzsche eut le cœur serré pour cet enfant. Son dernier commentaire en disait si long sur les conditions de vie des villageois.
« Si vous pouviez nous sauver, briser le sort du buveur de vie et restituer la fertilité à nos terres, j'adorerais ça. Depuis toujours, je rêve de rendre sa beauté au monde. »
Chardon se mit en route d'un pas sautillant.
« Vous pensez pouvoir vaincre le buveur de vie ? »
demanda-t-elle en se retournant.
« Qui est-ce, pour commencer ?»
Sans qui Nathan.
Nous ne pouvons rien promettre, prévint Nietzsche.
Chardon secoua la tête, son bizarre chignon oscillant comme un entrelac d'algues.
Tout le monde sait qui est le buveur de vie. Un méchant sorcier, tapis au cœur de la balafre, qui vole toute la vie du monde pour combler son propre vide. Enfin, c'est ce que dit oncle Marcus et je ne sais rien de plus.
Ton oncle ne s'inquiète pas de te savoir seul dans ce désert ? Demanda Nietzsche.
« Je sais prendre soin de moi. »
Chardon accéléra le pas, survolant presque le sol rocheux. Sans ralentir, elle se baissa pour ramasser des pierres avec sa main droite, puis accéléra encore, certaine que ses compagnons la suivraient.
« Je m'élève toute seule depuis la mort de mes parents, quand j'étais très petite. Oncle Marcus et tante Luna s'occupaient de moi, mais il manque d'eau et de nourriture, donc je dois subvenir à mes besoins. Bien sûr, j'essaie aussi de les aider. »
Ayant vu quelque chose sur sa gauche, Chardon tourna la tête. À une vitesse incroyable, elle lança ses pierres, dont la plus grosse fit mouche. Approchant de la paroi, elle se baissa pour ramasser le lézard qu'elle venait de tuer.
« Presque trop petit pour qu'on se fatigue, » dit-elle dépitée.
Néanmoins, elle attacha le reptile à sa ceinture.
« Tante Luna dit qu'il ne faut jamais gâcher de la nourriture. Elle est si dure à trouver de nos jours. »
Increvable, Chardon mena le groupe à un rythme que Nietzsche eut quelques difficultés à suivre. À force de trébucher, Nathan et Bannon finirent par ralentir.
« Tu es très jolie !»
dit la gamine à Nietzsche. Apparemment, avoir de la compagnie la comblait de joie.
« Tu viens d'où ? Et à quoi ça ressemble chez toi ?»«
Je viens du Nord, dans le Nouveau Monde.
Moi, je ne connais qu'ici. »«
Il y a de l'eau là où tu vis ?» Des arbres, des fleurs ?
Oui, des grandes villes aussi, et même des jardins de fleurs.
Des jardins de fleurs? Pourquoi as-tu quitté un si bel endroit pour venir chez nous?
Nous ne savions pas que nous arriverions dans ce coin. On voyage depuis longtemps.
Eh bien, je suis contente que vous soyez là. Après avoir vaincu le buveur de vie, vous trouverez un moyen de sauver la vallée, puis le monde entier.
Nietzsche frissonna en repensant à la prédiction de Rouge.
C'est peut-être pour ça que nous sommes là.
On va faire ce que tu dis, petite, intervint Nathan, si c'est en notre pouvoir.
Après une heure de marche dans un paysage mornement uniforme, Chardon s'arrêta et tendit un bras.
Voici mon village.
Les trois voyageurs s'arrêtèrent pour mieux regarder et ne furent pas impressionnés. Situé au carrefour de voies impériales, dans une région qui devait naguère être semée de champs et de fermes, les sources de Verdun avaient à l'évidence connu des jours bien meilleurs. Mais dans cette ancienne grande ville, aux fiers bâtiments de pierre, seules quelques humbles maisons de briques restaient habitées, comme si la population, à l'instar des sources, s'était brusquement tarie. Près d'un bâtiment en pierre, dans une rue en terre, quelqu'un avait empilé des gravats. Non loin du monticule, une charrette amputée d'une roue gisait sur le flanc. La plupart des maisons vides tombaient en ruine ou disparaissaient sous une épaisse couche de poussière. Nietzsche compta une vingtaine de personnes en train de s'affairer sous le cagnard. En haillons, de miteux chapeaux de paille sur la tête, des hommes travaillaient autour d'un puits. En approchant, Nietzsche vit qu'ils allaient faire descendre un de leurs compagnons dans l'étroit conduit vertical.
« On continue à creuser !» lança le type. « Si on descend assez, on trouvera de l'eau fraîche !»
Le seau accroché à une seconde corde passée dans une poulie contenait une boue gluante et fétide. Pour annoncer son arrivée, Chardon siffla entre ses doigts. L'homme qui allait entrer dans le puits leva les yeux. Avec un bel ensemble, tous les autres tournèrent la tête vers la fillette et ses trois compagnons.
« C'est Marcus. Je vous ai parlé de lui. Mon oncle, cette femme est une magicienne. Le vieux type est un sorcier, mais il a perdu son pouvoir. »
« Je n'ai rien perdu, » corrigea Nathan. « Pour le moment, disons qu'il est inaccessible. »«
Le genou se nomme Bannon, » continua Chardon. « Je sais pas s'il est bon à quelque chose. »
Le jeune homme se rembrunit. Très maigre, des cheveux bruns et une barbe raide, Marcus portait un gilet de cuir fatigué sur sa chemise maculée de boue. Rien d'étonnant puisqu'il travaillait dans le puits.
« Bienvenue aux sources de Verdun, étranger. Désolé, mais je n'ai pas grand-chose à vous offrir. Idem pour mes compagnons. »
« J'apporte des lézards, »
annonça Chardon.
« Dans ce cas, on pourra festoyer, »
dit Marcus avec un sourire.
« Chardon, tu es une très bonne chasseuse. Grâce à toi, notre famille se régalera ce soir, et nos invités aussi. »
Tante Luna vint à son tour se présenter. La peau sombre, une robe aussi rapiécée que celle de Chardon, elle portait un foulard miteux. En des temps très reculés, ce carré de tissu avait dû être rouge, mais il ne restait pas grand-chose de la couleur. Devant chez elle, Luna avait installé plusieurs vasques remplies d'une terre noire fertilisée avec des excréments humains. Dedans, quelques légumes verts parvenaient héroïquement à pousser. Époustant le devant de sa robe, la tante de Chardon essaya de rectifier un peu la coiffure de la fillette.
« On aura sans doute aussi des légumes, » dit-elle. « Mieux vaut les manger que les abandonner aux buveurs de vie. »«
Tant qu'ils sont dans les vasques, » dit Chardon, « il ne les aura pas, parce qu'il ne sait pas traverser les parois. »«
Ou parce qu'il ne fait pas assez d'efforts, »
modéra Luna en ajustant son fichu anciennement rouge. Les villageois murmurèrent entre eux. La seule évocation du buveur de vie les mettait mal à l'aise.
« Nous sommes contents de votre visite, » dit Marcus.
« Si vous allez dans les autres agglomérations du coin, vous les trouverez désertes. Les sources de Verdun sont l'ultime bastion habité de ce secteur. Partout ailleurs, les gens sont partis ou ils ont disparu, on ne sait pas. »
Marcus essuya le front.
« Pourquoi n'êtes-vous pas parti aussi ?» demanda Nathan. « Vous devriez pouvoir trouver un environnement plus agréable, non ?»«
Un jour, » dit Luna, « cet endroit redeviendra une vallée luxuriante. Nous savons quel paradis c'était. »
Plusieurs villageois acquiescèrent.
« Moi, j'imagine, »
soupira Chardon, rêveuse.
« J'ai demandé à mon mari de partir et de traverser la montagne, »
précisa Luna.
On dit qu'on trouve des villes par là, et même un océan si on marche assez longtemps vers l'ouest. Un océan. De l'eau en abondance. À l'époque où Chardon est né, il y avait un lac ici, avant que la balafre dévore tout.
Nous ne partirons pas, dit Marcus, et nous lutterons jour après jour pour survivre.
Bombant le torse, il ajouta,
nous sommes durs et indociles.
Indociles ?
Répéta Nietzsche dubitative. Un autre mot en cils lui aurait paru beaucoup mieux adapté à ces gens. Imbécile, par exemple.